du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Tamani. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale. Voici les titres. L'auteur de la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta à la Grande Mosquée de Bamako est décédé. L'annonce a été faite hier soir dans un communiqué du gouvernement. Mais toutefois, le gouvernement rappelle la poursuite de l'enquête. Plus de 19 000 candidats vont concourir ce lundi 26 juillet pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Les autorités scolaires assurent pour la bonne tenue de ces examens. Mais les enseignants signataires du 15 octobre 2016 déclarent boycotter ces examens. Des insuffisances d'engrais sont signalées par des exploitants coton dans la région de Sikasso. Ils interpellent l'État à intervenir pour un acheminement rapide des engrais subventionnés afin d'éviter une nouvelle crise liée à la culture du coton. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Nous dirons assure la technique. L'auteur de la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta à la Grande Mosquée de Bamako est malheureusement décédé. L'annonce a été faite hier soir dans un communiqué du gouvernement. Selon le document, c'est au cours des investigations que son état de santé s'est dégradé. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès, indique le communiqué. Le gouvernement malien rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête. Je vous l'annonçais dans les titres, l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle démarre ce lundi sur le territoire national. 19 745 candidats sont répartis entre 76 centres d'examen. Selon les autorités en charge de l'éducation, des dispositions sont prises pour la bonne tenue de ces examens. Au même moment, les enseignants signataires du 15 octobre 2016 annoncent un arrêt de travail à partir du 9 août 2021. Les détails avec Adama Hamadou Aïdara.
C'est parti ce lundi 26 juillet pour les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle session 2020-2021. La rive gauche du district de Bamako compte cette année 2525 candidats avec 198 surveillants. Kone Rakia Toudia, la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche, rassure quant à la bonne tenue de ces examens.
Les dispositions matérielles sont quand même prises hein, et en termes de répartition des candidats par centre, nous avons 2525 candidats entre CAP tertiaire et le CAP industrie qui sont répartis dans 5 centres avec 89 salles. Et en termes de surveillants, nous avons 198 surveillants.
Cette assurance n'est pas partagée par les enseignants signataires de l'accord du 15 octobre 2016. Ils annoncent le dépôt d'un préavis de grève de 12 jours dès ce lundi qui prend effet à partir du 9 août 2021. Selon leur porte-parole Ousmane Almoudou, il n'est pas question d'aller aux examens sans des propositions de solutions concrètes sur leur douleur.
Aujourd'hui, je commence le CAP sur l'ensemble du territoire national. Nous ne participerons pas à aucune de ces activités-là. Le gouvernement est en train de jouer à l'usure, pensant qu'à un moment donné, les enseignants vont abandonner. Ils ont pris une décision. Ils s'assument. Nous aussi, nous avons pris une décision. Nous allons nous assumer jusqu'à ce que la loi de la République soit appliquée.
Les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 protestent contre l'harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires maliens. Ils exigent l'application de l'article 39.
Et pour suivre les cours et tenir les examens selon le calendrier établi, c'est ce que demandent les élèves du Mali à travers le Parlement des enfants. Ils ont tenu un point de presse vendredi dernier à la Cité des enfants pour demander aux différents acteurs de l'éducation de trouver une solution rapide. Le reportage avec Issa Omar Togola.
Nouvelle menace de grève des enseignants qui plane sur l'année scolaire, les enfants expriment leurs inquiétudes. Lors de cette conférence, ils ont interpellé les différents acteurs de l'éducation. Noam Sherif Aïdara, porte-parole du Parlement des enfants.
C'est une violation flagrante des droits des enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués, qui seront les dirigeants? Si les enfants ne vont pas à l'école, cela ferait d'eux des gens en proie à la délinquance, à la violence qui se retrouveraient dans les rues les jours à venir.
À la suite de ce point de presse, les enfants se sont rendus à la maison des enseignants pour remettre une déclaration aux enseignants. Ces derniers se disent conscients de la situation, mais affirment que la responsabilité incombe à l'État. Ousmane Almoud, enseignant.
Nous, syndicats de l'éducation, notre souhait n'est pas de leur faire du mal. Aujourd'hui, la situation qui nous est imposée, c'est le gouvernement qui l'a fait. Et il revient au gouvernement de trouver la solution et de garantir les droits de tout un chacun. À la fois garantir le droit des enfants à l'éducation, mais aussi des enfant qui n'est autre qu'une application d'une loi de la République.
Une copie de cette déclaration devrait être rendue au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les enfants ont annoncé entreprendre prochainement de nouvelles actions jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plusieurs frappes aériennes de la force Barkhane ont visé des prisonniers djihadistes ce week-end à Tinhama, dans le nord du pays. À cela s'ajoute un cycle de violences insécuritaires au pays Dogon, où plusieurs cas d'attaques djihadistes ont été rapportés par des sources locales ces dernières 48 heures. Les précisions avec Mouda et Sophie Maïga.
Selon des informations rapportées par les sources locales, ces frappes menées par la force Barkhane ont visé quelques poches de djihadistes à Ntagla et à Tinahama dans le cercle d'Ansongo. Cependant, les habitants des villages ciblés indiquent que ces frappes ont aussi semé la panique. Dans le centre du pays, à Banjagara, les sources locales affirment que plusieurs villages Dogon, dont Djombolo, Tende, ont été visés par des attaques terroristes ce week-end. Et à chaque endroit, les hommes armés ont saccagé et emporté le bétail. D'après ces sources, un vieillard blessé a fini par succomber à ses blessures à l'hôpital de Mopti. À quelques kilomètres de là, à Bankas, des forêts enlevées il y a quelques semaines à Tori et Koulogon ont été libérées la semaine dernière, et c'était à l'issue d'une médiation menée par les élites traditionnelles de la zone. Du côté sud du pays, un agent de la police a été assassiné avec un couteau ce vendredi 23 juillet 2021 après la prière du jour au quartier d'Abaï de Nara en région de Koulikoro. Selon les témoins, l'auteur du drame en fuite s'est attaqué à la victime pendant qu'il s'apprêtait à prier dans une mosquée.
Ici à Bamako, calme précaire au quartier Lafiabougou après des altercations qui ont causé la mort d'un jeune du quartier. Mais les jeunes de Lafiabougou annoncent un meeting ce lundi à la place de l'Indépendance pour dénoncer cet acte. Le président des jeunes leaders de la commune 4 affirme que l'unité de police impliquée dans l'incident serait suspendue et mise aux arrêts, mais exige une justice équitable. Zarfou Berté est au micro de Sali Sissoko.
Les policiers qui faisaient la patrouille le jour-là sont toujours emprisonnés. Demain même, il y aura un meeting au niveau de la place Cannes pour dénoncer ces policiers-là qui font toujours des bavures. On a planté une plainte contre la police et nous allons chercher toujours à aller dans le sens de l'apaisement sur intérêt d'attente. Et au cas contraire, si nous n'arrivons pas à trouver une satisfaction, nous allons se concerter comme d'habitude et voir ce que nous allons faire dans les jours à venir. Le vendredi, on a fait l'enterrement. Chaque jour, on passe là-bas pour saluer la famille et prendre les nouvelles qui sont à leur disposition. Et nous lançons toujours des appels envers nos autorités pour qu'ils puissent prendre les choses en main et que cette fois-ci la justice soit faite.
Parlons agriculture. La relance de la production cotonnière connaît quelques difficultés dans la région de Sikasso après la crise de l'année dernière. Les coopératives agricoles de Kouchala, Bougouni, Yoroso ou dans la zone Office du Niger émettent notamment des difficultés dans l'accès à l'engrais et à l'eau. Cependant, les responsables de la CMDT envisagent une meilleure campagne coton en fin de saison cette année. Mamadou Samaseko nous en dit plus.
Les producteurs coton ont exprimé leur volonté de relancer la culture du coton cette année après les engagements pris par l'État pour améliorer le secteur. De Bougouni à Kouchala, en passant par Yoroso, les exploitants de l'or blanc regrettent l'insuffisance de l'engrais pour mieux entamer la campagne.
Les pluies se font rares, pas d'alerte pour le moment. S'il s'agit des intrants agricoles et d'insecticides, tout n'est pas réglé.
Je peux dire qu'on doute pour la question de traitement d'abord, avec la question de pluie.
Je dispose de 5 hectares pour environ 6 tonnes de coton, mais il n'y a pas assez d'engrais. C'est le grand problème cette année.
Selon la CMDT Yoroso, plus de 95% des superficies prévues en coton ont été réalisées et la pluviométrie est actuellement jugée satisfaisante. Hebekono Somboro, chef secteur CMDT de Yoroso.
La réalisation à la date d'aujourd'hui est de 62 826 hectares, soit 96%. La production prévue est de 67 100 tonnes pour le cercle. Vu l'allure de la campagne, il est très certain que les prévisions seront atteintes.
Du côté de Massina, dans la zone Office du Niger, les exploitants agricoles dénoncent l'indisponibilité de l'engrais. Les subventions accordées par le gouvernement tardent à être acheminées. Selon les responsables du secteur agricole, si les engrais subventionnés n'arrivent pas dans un bref délai, la campagne risque d'être compromise.
Direction Tokyo où les Jeux Olympiques se poursuivent. Deux athlètes sur les quatre qui représentent le Mali ont perdu lors de leur première sortie. Il s'agit des disciplines relatives à la natation et au taekwondo, représentées de façon respective par Sébastien Kouma et Seydou Fofana. Quant à l'athlétisme, la compétition débute pour le Mali le 30 juillet prochain. Situation de la COVID-19 à la date du dimanche 25 juillet 2021. Les autorités sanitaires du Mali ont enregistré deux nouveaux cas positifs, 400 patients guéris et zéro décès. Ainsi, la situation cumulée est de 14 542 cas confirmés, dont 13 924 patients guéris et 530 décès. Place maintenant à la rubrique Actu COVID présentée par Mariam Koulibaly.
Le coronavirus a subi différentes mutations depuis son avènement, affirment des spécialistes de la santé. Il s'agit notamment des variants britanniques, nigériens, sud-africains, brésiliens et récemment le variant Delta. Malgré cela, certains habitants de la capitale malienne mettent toujours en doute l'existence de la maladie. Les autorités sanitaires rassurent cependant que des dispositions ont été prises pour freiner la chaîne de contamination de la maladie. C'est un reportage signé Aïssa Tadjara.
Si des citoyens maliens affirment avoir entendu parler du nouveau variant Delta, d'autres par contre continuent à ne pas croire en l'existence même de la COVID-19.
Moi, je ne crois pas à ça. Même le coronavirus, je ne crois pas à 100% à celle-là.
C'est que je suis au courant du nouveau variant.
En vrai, je ne suis pas informé.
Bon, que ça soit vrai ou pas, il faut se protéger.
Nous connaissons la COVID tout court, mais s'agissant de notre type, nous ne sommes pas au courant de ça. D'ailleurs, nous ne croyons même pas à l'existence de cette maladie.
La COVID n'est pas notre maladie.
Je ne crois pas en l'existence du coronavirus.
Le virus Delta a une grande capacité de transmission, affirme cependant Dr Seydou Doumbouya, président du comité scientifique. Il rassure toutefois que des dispositions sont prises pour endiguer le virus.
Que les gens soient avertis que nous avons un grand risque devant nous pour les dispositions. S'assurer aussi qu'au niveau de nos structures de prise en charge, que nous avons suffisamment de respirateurs, que nous avons suffisamment de médicaments pour faire face. L'option qui nous reste, c'est vraiment aussi la vaccination. Au niveau des aéroports, les dispositifs sont renforcés pour s'assurer que ceux qui viennent sont testés.
Les autorités sanitaires appellent aussi la population au respect des mesures barrières qui, selon elles, restent le seul moyen de protection contre la maladie de nos jours.
À présent, la question d'auditeur répondue par professeur Yacouba Toloba, responsable du deuxième centre de traitement de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
Allô docteur, parmi les malades de COVID-19 au Mali, on constate que les hommes sont plus touchés que les femmes. Scientifiquement, qu'est-ce qui l'explique?
Effectivement, c'est comme la tuberculose. Peut-être il s'agira de la susceptibilité génétique et aussi du fait que l'homme est plus mobile que la femme. Mais tout ceci là seront éclairés au fur du temps parce qu'il y a plusieurs projets de recherche qui sont là pour essayer de répondre aux questions des uns et des autres.
Nous sommes au terme de cette rubrique Actu COVID. Merci pour votre fidélité. N'oubliez surtout pas de porter vos masques pour vous protéger du coronavirus.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale. Les journées de vaccination de la chimioprévention du paludisme saisonnier vont démarrer ce lundi 26 juillet à Bankassa dans la région de Mopti. Un atelier préparatoire de sensibilisation d'information s'est tenu ce samedi afin d'informer les populations sur les objectifs de cette campagne. Initiée par le service local développement social de l'économie solidaire, cette campagne vise à réduire les cas de morbidité et de mortalité liés au paludisme dans les zones de transmission saisonnière. Elle va se poursuivre jusqu'au 30 juillet dans tout le cercle. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition. Une présentation de Aïssata Diarra, mais avant tout de suite, le magazine. Chaque jour, plus de 611 000 mètres cubes de déchets liquides sont déversés dans le fleuve Niger. C'est ce qui ressort du rapport technique 2020 du projet cartographie Carto. Le document indique que sur les 94 collecteurs de la capitale, les eaux de 58 d'entre eux finissent leur course dans le fleuve. Carto est une initiative de Joint for Water de l'IPR IFRA de Katibougou. Le magazine Parlons de l'environnement s'intéresse au sujet. Il est présenté par Mahaman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Les rapports du projet Carte Eau notent qu'il n'existe aucune station de traitement des eaux usées urbaines à Bamako. Cette situation constitue une menace sur le fleuve Niger. Certains habitants de la capitale interpellent les autorités. D'autres demandent à la population d'adopter un meilleur comportement.
Quand le fleuve Niger est en sursis, c'est la ville qui est en sursis aujourd'hui. Vous avez une intense production artistique, culturelle qui est liée au fleuve Niger. Vous prenez la région de Ségou, vous avez toute une production mythologique sur le fleuve Niger. L'histoire de Bafaro, l'histoire d'Amazon d'une façon générale, c'est le fleuve Niger. Les mythes fondateurs de ce pays-là, essentiellement, sont à partir du fleuve Niger. Dans la région de Gao Tombouctou, nous ne l'appelons pas le Niger, nous l'appelons Issaber ou Issabero, le grand fleuve. Donc, c'est un référentiel très, 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 très important pour nous.
Vous savez, si on avait une société civile forte, des riverains assez organisés, vous pensez que c'est des réalisations qui auraient pu se faire? Je ne pense pas, parce que les gens ne parlent pas le même langage. Les gens sont passifs. Et aujourd'hui, il faut dépasser cela.
Le fleuve est pollué par la population, par méconnaissance et par insouciance. La pollution du fleuve est très inquiétante pour nous parce que ça nuit à la santé. Et s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement. La santé est primordiale et la santé n'a pas de prix.
Selon les rapports de cartographie du réseau d'égouts de Bamako et évaluation des déversements des eaux usées de Bamako dans le fleuve Niger, carte eau, plus de 600 millions de litres de déchets liquides et solides sont déversés dans le fleuve Niger à la traversée de Bamako. Sidi Ba, initiateur du projet carte eau et auteur principal des présents rapports.
Le fleuve, il est de plus en plus pollué à Bamako. Et on n'a pas souvent besoin d'aller analyser l'eau du fleuve pour le savoir parce qu'on voit les déchets qui y sont déversés, que ce soit les déchets liquides ou bien les déchets solides. Et aussi, on voit aussi la jachette d'eau, donc qui est aussi une conséquence de la pollution. Et puis, il y a un autre constat, c'est qu'à Bamako, on n'a pas encore une station de traitement des eaux usées, même si souvent les collecteurs étaient à l'origine prévus pour le drainage des eaux pluviales. Mais du fait que les déchets sont déchargés dans ces collecteurs, c'est les eaux pluviales deviennent des eaux usées. Et toutes ces eaux usées sont directement drainées dans le fleuve Niger sans être traitées par une station adéquate. Donc c'est face à ce constat qu'on a eu l'idée de vouloir d'abord quantifier l'ampleur de cette pollution. Et pour pouvoir quantifier l'ampleur de cette pollution, il fallait avoir une précision sur les quantités de ces eaux qui arrivent au fleuve. Alors pour faire ça, il fallait d'abord déterminer par quelle voie ces eaux arrivent dans le fleuve. Et on se rend compte que c'est principalement par les collecteurs. Et quand on a été pour voir est-ce qu'il y a une carte de tous les collecteurs de la ville, on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas. Donc d'où est venue l'idée de faire une cartographie des collecteurs et puis faire une estimation des eaux qui arrivent à travers ces collecteurs.
Face à cette situation alarmante, les auteurs de cette étude appellent à une réorganisation de tous les systèmes de gestion des déchets liquides et solides dans la capitale pour la préservation de la santé publique et la protection de l'environnement. Sidi Ba.
Il n'y a pas 1000 solutions, ça dit que les eaux qui sont directement drainées à partir de ces collecteurs vers le fleuve, il faut qu'il y ait deux collecteurs principaux qui longent le fleuve Niger sur les deux rives. Donc, au lieu que ces eaux qui arrivent dans les collecteurs aboutissent directement au fleuve, il faut les collecter dans un collecteur principal maintenant et puis aller vers une station de traitement. On peut le faire aussi bien pour la rive gauche où nous sommes actuellement et puis pour la rive droite et puis traiter cette eau avant de la rejeter dans le fleuve Niger. Surtout que nous-mêmes, nous, à Bamako, c'est ce fleuve qui est utilisé comme source d'approvisionnement en eau potable. C'est cette eau qui est traitée à Bamako pour distribuer l'eau que nous avons au robinet à la maison. Donc, plus la population va augmenter, si la situation ne change pas, ça veut dire que ça va coûter beaucoup plus cher de traiter cette eau. Et donc, si ça coûte plus cher de traiter cette eau, ça va coûter beaucoup plus cher aux consommateurs pour avoir de l'eau de robinet à la maison.
Concernant cette pollution du fleuve Niger, les responsabilités sont partagées, affirme le directeur adjoint de l'agence du bassin du fleuve Niger. Cependant, selon Moussa Diamoué, des mesures sont prises pour lutter contre ces fléaux.
Et on peut dire que c'est la faute à tout le monde. D'abord, les citoyens, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on devient très incivique. C'est-à-dire, on n'essaye pas d'avoir le meilleur rapport avec le fleuve, à qui nous devons beaucoup de choses. Il y a aussi qu'en termes de législation, souvent aussi, la volonté n'est pas très affirmée pour essayer de contourner. Les textes sont pris, mais dans l'application des textes, souvent, il y a des failles. Bon, il y a déjà quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a des choses notables qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Par exemple, aujourd'hui, pour ce qui est du dragage sur les cours d'eau au Mali, l'activité est complètement interdite dans le nouveau code minier. Ça, c'est une avancée notable. Il y a aussi que maintenant, on communique aussi beaucoup. Par exemple, au niveau de la BFN, on a élaboré beaucoup de supports de communication pour sensibiliser sur les enjeux de la sauvegarde du fleuve Niger, des spots, des sketchs, des films. Parce que pour nous, il faut continuer à sensibiliser les citoyens et aussi on renforce leur capacité aussi, parce qu'il faut que nous ayons la même compréhension des préoccupations liées au fleuve. Mais aujourd'hui déjà, je pense que nous, tout comme la DNACPN, la Direction nationale de l'assainissement, au niveau de notre ministère, on fait un effort pour faire en sorte que les effets les activités polluantes soient circonscrites.
C'est ce qui met fin à ce numéro du magazine Parlons de l'environnement, présenté par Mahamane Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.